Bonjour. Alors donc, continuons sur la lancée de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'il était question de frontières et de lutte de pouvoir autour de cette frontière. Par exemple, dans le cas de Madame O, il y avait une lutte de pouvoir entre la majorité dominante qui se voulait sympa, décontractée, gentille, faisant plaisir quoi qu'il arrive. Et la minorité réunie et refusée qui cherchait à se manifester dans la situation, en l'occurrence se manifester d'une façon plus coléreuse, plus affirmée, plus catégorique, et se représentait pour Madame O une sorte de menace identitaire puisque ça supposait de devenir autrement que ce qu'elle avait toujours décidé qu'elle était. Idem pour Madame P, qui était assez mal à l'aise avec cette partie fofolle en elle qui commençait à essayer de se manifester, de prendre de la place, et finalement ça devenait une menace identitaire pour elle aussi, et elle aussi elle a établi une frontière extrêmement rigide. Donc toutes les deux ont colmaté la frontière qu'elles ont rendue la plus imperméable possible pour éviter que la subpersonnalité reniée se manifeste. Or, ce qu'on a vu aussi, c'est que si elles avaient pu avoir une frontière fonctionnelle, en l'occurrence, on verra ensemble, semi-perméable, eh bien, progressivement, quelque chose de la nouvelle attitude aurait pu être envisagé, aurait pu être intégré, et du coup aurait amené une libération du symptôme, que ce soit les angoisses de Madame O ou la dépression de Madame P. En résumé, une frontière imperméable, une lutte de pouvoir et une rigidification du système qui s'ensuit. Eh bien, on verra qu'on peut travailler d'une façon extrêmement pertinente et intéressante et libératrice en ayant ce schéma à l'esprit, c'est-à-dire les frontières en particulier et la lutte autour des frontières. Alors, par exemple, pour dire quelle est la richesse qu'on pourrait en découvrir, je vais vous citer les travaux d'un psychologue américain qui s'appelle Al Sieber. Al Sieber s'est consacré à étudier les survivants, ceux qui sont sortis dans des situations invraisemblables, extrêmement difficiles, menaçantes, où ils pouvaient mourir. Il s'est posé la question, il s'est dit, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun au point de vue psychologique? Et parmi les différentes choses qu'il a remarquées, le point principal, c'est ce qu'il a appelé le fait qu'ils étaient biphasiques, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'être deux choses contradictoires à la fois ou successivement. Ils pouvaient être durs et doux, ils pouvaient être souple et rigide, il pouvait être introverti et en même temps assez extraverti par d'autres moments, il pouvait s'appuyer sur leur expérience antérieure ou bien au contraire totalement la nier et démarrer sur des nouvelles bases et ainsi de suite. Autrement dit, ils avaient une capacité à être contradictoires et à pouvoir utiliser au besoin une capacité ou l'autre, suivant ce qui était le plus adapté à ce moment-là. Autrement dit, si on a un grand nombre de possibilités, de capacités et de traits de caractère différents à l'intérieur de nous, on a plus de possibilités d'adaptabilité. Si Madame O ou Madame P avaient pu facilement intégrer l'autre partie d'elle-même, elles auraient pu passer le virage pour l'une du changement de son supérieur hiérarchique et pour l'autre l'arrivée vers la fin de l'adolescence de ses enfants et la quarantaine pour elle, et s'adapter pour pouvoir trouver une nouvelle attitude qui soit plus conforme à la situation du moment. On a intérêt à ça. Et pourquoi on ne le fait pas? On va voir ensemble. Pourquoi c'est si difficile? On va voir ensemble. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans ces deux cas, mais comme dans plein d'autres cas, source de problèmes, de symptômes ou de pathologies, on a en somme une sorte de pouvoir totalitaire. Il n'est pas question d'entendre si peu que ce soit la minorité interdite. Il n'est pas question qu'on puisse laisser un peu de place à la partie fofolle, par exemple. Presque comme un pouvoir dictatorial, qui ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit, d'une voix contradictoire et qui oppresse les minorités afin qu'elles ne s'expriment pas. Ces pouvoirs dictatoriaux, on sait que dans la réalité historique, des pouvoirs dans les pays où il y a eu du totalitarisme, on sait que le pouvoir dictatorial semble absolument impossible à bouger, que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement marqué, qui est là pour 1000 ans, etc., et qui en fait s'écroule très vite quand à un moment donné la frontière craque. C'est-à-dire que on a vu très souvent des pouvoirs totalitaires qui basculaient en très peu de temps. Et bien c'est pareil au point de vue psychique. C'est-à-dire quand on est rigidement établi sur une position qui ne doit pas changer, qu'on ne veut pas changer, qui changera pas, il arrive qu'il y ait une espèce de bascule brutale, totalement inattendue, et où la personne se met à faire des choses qu'on n'aurait jamais cru qu'elle ferait. C'est l'assassin pris d'un coup de folie qui a tué je ne sais quelle personne autour de lui ou d'elle et dont les voisins sont totalement estomaqués en disant c'était quelqu'un tellement gentil, doux, compréhensif, bienveillant, etc. Un peu comme s'il avait été brutalement renversé par l'opposé de ce qu'il était. Ou c'est le prêtre consacré à la pureté, à la beauté, au mysticisme, aux hauteurs de la religion, et qui bascule dans la pédophilie, c'est invraisemblable, alors qu'il était au contraire tellement pour la pureté ou des choses comme ça. L'inconvénient d'un pouvoir totalitaire et d'une frontière imperméable, c'est que quelquefois, dans les circonstances qui le permettent, il y a une espèce de bascule, de fracture, et la personne se met à faire quelque chose qui était totalement le contraire de ce qu'elle était. En réalité, nous avons travaillé sur les frontières de façon à ce qu'elles soient fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on puisse progressivement intégrer des aspects de nous-mêmes qui, dans un premier temps, ont été mis de côté, parce qu'il fallait bien qu'on commence à créer quelque chose, et qui, dans un second temps, sont comme une espèce de manque. Une des comparaisons que j'ai, c'est celle d'un château. C'est-à-dire, par exemple, quand on est enfant, on occupe certaines pièces du château, et les autres sont déjà occupées par un frère, par une sœur, par les parents, etc. Donc, on les occupe pas. Mettons pour Madame O. Sa sœur occupait la pièce de affirmation agressive, affirmation de ses besoins, mise en place prioritaire de ce qu'elle voulait. Et bien du coup, Madame O a occupé une autre pièce, celle de la gentille, adaptable, diplomate et tout ce qu'on veut. Ok, à cette époque-là, c'était une façon de se différencier. On voit par exemple des fratries très proches, souvent ils sont assez différents l'un de l'autre, comme si chacun des deux avait besoin de se positionner autrement que l'autre pour pouvoir trouver sa propre identité. Ça, c'est valable dans l'enfance. Mais ensuite, une fois qu'on est adulte, toutes les pièces du château sont devenues disponibles. Et là, à un moment donné, il est question de récupérer celles auxquelles on n'avait pas eu accès jusqu'à présent. Pour Madame O, ça aurait été de récupérer la pièce occupée par sa sœur pendant un temps, de façon à découvrir un autre aspect d'elle-même. Bon, c'est une comparaison, hein. Enfin, ceci dit pour dire qu'il est important d'accéder à une complexité, une richesse de caractère dans notre âge adulte, et plus on avance, et plus on a intérêt à découvrir comment on a des capacités contradictoires mais disponibles, comme les survivants de Alciber. Alors, revenons sur cette question des frontières. Donc alors, les frontières fonctionnelles, finalement, c'est des frontières semi-perméables. qui permettent un pouvoir qui n'est pas totalitaire, un pouvoir qui accepte de reconnaître une partie minoritaire qui cherche à s'exprimer à ce moment-là. Et alors on va voir qu'il y a des gradations dans le refus de la partie minoritaire qui cherche à s'exprimer. La gradation la plus légère, celle qui est la plus fonctionnelle, la plus utile, qui nous sert à tous à un certain moment donné, s'appelle la mise à l'écart. La mise à l'écart, c'est je sais que c'est là, je reconnais que c'est là, mais je décide de ne pas y accorder mon attention pour le moment. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train d'escalader une falaise, vous êtes collé contre la falaise, vous avancez progressivement, et puis il y a une partie de vous qui se met à avoir peur et qui dit: Ouh là là, mais il faut s'arrêter, on va tomber, etc. Eh bien, l'alpiniste, dans ce cas-là, va reconnaître cette partie-là, mais va dire: Non, mais attends, c'est pas le moment. Pour le moment, je ne peux pas me permettre de m'occuper de ça. Je vais continuer à faire mon chemin, sinon je resterai plaqué à la falaise. Eh bien, cette partie est reconnue, mais elle est mise à l'écart. On peut aussi voir un peu la même chose dans le cas de l'insomnie. On se réveille, on pense à un truc qui nous tracasse, et puis ça se met à tourner à toute vitesse, et on rumine, etc. À un moment donné, la mise à l'écart consiste à dire: Bon, ok, c'est un souci qu'il faudra que je règle. Mais pour le moment, c'est pas le temps. Et j'y repenserai demain. Et à ce moment-là, si on arrive à faire ça, on met à l'écart la chose. Non pas qu'on la refuse ou qu'on la fasse disparaître, simplement on lui dit: pour le moment, c'est pas le cas. C'est pas le temps. Mise à l'écart. Très utile et très intéressant comme mode de fonctionnement. Quelque chose qui est un peu du même ordre, c'est l'humour. On reconnaît que c'est là, mais on en fait une source de rire. Et donc, du coup, on le met à une certaine distance. L'humour, c'est mettre à une certaine distance. C'est aussi reconnaître la chose. L'humour juif, l'humour belge, c'est se moquer de sa propre vulnérabilité et finalement, de cette façon, la reconnaître, mais en même temps, la contenir. Ce qui n'est pas pareil que l'ironie où on se moque de l'autre. Donc, la mise à l'écart, l'humour, quelque chose qui est déjà un petit peu plus, qui met plus, un peu plus la minorité en présence à l'écart, s'appelle la dénégation. La dénégation, ça consiste à dire que ça n'est pas présent. Exemple, on demande à quelqu'un, et alors, donc, qu'est-ce que ça vous a fait? Et la réponse qui lui vient, c'est: je n'ai pas eu peur. Ou je n'ai pas été triste. En fait, la première idée qui lui vient, c'est la peur ou la tristesse. Simplement, cette première idée, elle est encadrée par ne pas, de façon à ne pas trop être confronté par ça. Autrement dit, quand quelqu'un dit immédiatement que c'est ça qu'il n'a pas ressenti, eh bien, on peut savoir que c'est ça qu'il a ressenti, mais que pour le moment, il préfère penser qu'il ne l'a pas ressenti. Donc c'est quand même un peu présent, mais entouré d'une dénégation, c'est-à-dire d'un refus. Après la mise à l'écart, l'humour et la dénégation, on arrive à des choses un petit peu plus lourdes qui ressemblent à ce qu'on a vu là. Par exemple, le refoulement. Le refoulement, vous en avez entendu parler, c'est l'oubli. Mais c'est l'oubli de quelque chose qui nous permettrait de visualiser ce qui s'est passé, c'est-à-dire de la représentation. Et pourquoi on oublie ça? Parce que, en fait, il y avait un élément affectif difficile à digérer dans cette situation et qu'on préfère oublier la situation pour ne pas avoir à gérer cet élément affectif. Donc, on pourrait dire qu'on supprime la représentation pour éviter l'affect qui est lié à cette représentation. Exemple, un de mes patients revient le week-end, après un week-end. Où en fait, on l'a vu après, ça avait été très difficile avec sa femme, il s'était engueulé, etc. Mais il n'en avait aucun souvenir. Et ce qui lui restait, c'était: bon, ben, le week-end a été pas mal, c'était bien, etc. Mais ceci dit, l'affect, lui, n'a pas été disparu, c'est seulement la représentation, le souvenir de ce qui s'était passé, qui a été refoulé, oublié. Donc l'émotion a continué à être là. Et en même temps que mon patient disait ça, il ressentait de la tension, du malaise, de l'angoisse, il avait des diarrhées, etc. Un peu comme si tout un tas d'éléments de son corps et de ses émotions venaient dire, tu oublies quelque chose, mais on est encore là. Donc le refoulement, c'est une tentative pour essayer de mettre de côté quelque chose de difficile, mais on se contente d'oublier la représentation. Mais l'affect lui-même, il est encore présent. Les conséquences de refoulement, c'est la tension, c'est les symptômes, c'est la lutte à l'intérieur de soi, etc., etc. Et les symptômes qu'on a vus ici. Encore plus profond, encore plus grave, il y a une sorte de déchirure du moi qu'on appelle le clivage, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas question pour cette personne de retrouver le vécu qui a été lié à telle ou telle situation. Donc là, c'est quelquefois, c'est à la fois la situation qui est oubliée et à la fois le refus total du vécu qui a eu lieu avec ça. Contrairement au refoulement, où quand même le vécu, il cherche à se manifester. Mais quelquefois même, c'est le souvenir est là, mais le vécu lié à ce souvenir est totalement absent, refusé. Exemple, la personne vous raconte calmement, tranquillement, sans affect, sans émotion, des choses très violentes. J'avais 8 ans, il venait me violer tous les soirs, etc. Parfaitement tranquille quand elle raconte ça. Et vous, en face, vous êtes totalement bouleversé, remué, inquiet, terrorisé par cette situation terrible. Eh bien, c'est un peu comme si tout ce vécu-là était absolument évacué du système psychique de la personne, et c'est l'autre qui le ressent à sa place. Mais ça amène quelque chose d'extrêmement perturbant, puisque c'est un peu comme s'il y avait une frontière bétonnée vis-à-vis de vécus qui doivent absolument être retrouvés pour être terminés autrement. Donc, vous voyez que les frontières sont de plus en plus rigides au fur et à mesure, de plus en plus imperméables au fur et à mesure, hein. Autant la frontière dans la mise à l'écart est assez perméable, autant dans le clivage, elle est totalement bétonnée. Et c'est ce qu'on dit en psychanalyse, c'est qu'on n'est pas malade de ces mécanismes de défense, on est malade de la rigidité de ces mécanismes de défense. On est malade de la violence avec laquelle ils sont là, ils sont présents. Autrement dit, plus on avance dans l'acceptation d'une complexité interne et du coup de l'élargissement de nos capacités psychiques, plus on va mieux, même si c'est au prix d'une mise en question de ce qui avait été jusqu'à présent, la façon dont on se voyait. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal qui est que plus j'accepte d'être mis en question dans la manière dont je me vois, dans le fonctionnement identitaire qui a été le mien jusqu'à présent, au profit d'une complexité dans laquelle je reconnais que je suis à la fois dur et doux, à la fois violent et tendre et tout ce qu'on veut, hein, rappelez-vous de Sieber, ben, plus j'ai une grande capacité d'adaptabilité et moins j'ai de symptômes et de troubles. Et donc on verra ça au fur et à mesure, comment ça se fait qu'on ne fait pas ce chemin-là et comment on peut le faire pour quand même arriver à cette richesse humaine. Hein. Voilà. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.